15h38, dans le retour à Boulevard 102.1. Je rappelle cette veille d'orage violent à Québec. On nous dit que les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle et de la pluie forte cet après-midi et ce soir. Pour l'instant, ça a l'air d'être encore beau. J'ai même pas vu de gouttes, en fait, là. Il y a eu des gouttes?
Oui, mais vraiment, là, genre okay. trois gouttes.
OK, bon. Ben si vous voyez des gouttes dans votre secteur aussi, et surtout des éclairs, hein, parce que ça, vous savez que ça m'excite beaucoup, merci de nous en faire part au 418-971-1021 et on pourra propager l'information. Même affaire, s'il se passe de quoi sur les routes, ça aussi, on veut le savoir. Présentement, dans les deux directions, là, Capitale, auteur Robert Bourassa, il y a un bon ralentissement. Capitale-Ouest, notamment, c'est ça. Hauteur après Robert Bourassa, la voie droite qui est bloquée en raison d'une panne. Là, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des voyeux de l'autre bord qui ralentissent pour checker. Là. On sait que souvent, c'est ça qu'on fait. Mais bref, dans les deux directions, Capitale, hauteur à peu près Robert Bourassa, c'est pas pire jamais. Et sinon, à Lévis, il y a la 20 Ouest ou dans le coin de Chemin des Îles, ça ralentit. Tant qu'à parler de ce qui se passe sur les routes, on a le plaisir de recevoir Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile en studio. Salut Sam!
Bonjour!
Fait que là, tu reviens d'un beau voyage aux États-Unis?
Oui, bien, Chalie, la semaine dernière, je vous ai parlé en direct de l'aéroport.
Oui, c'était très bien.
D'ailleurs, fait cocasse, tout de suite après l'entrevue qu'on a fait ensemble, il y a une souris qui est tombée du plafond.
Impossible.
Ouais. À côté de moi, il y a une grosse souris qui est tombée de la trappe de ventilation
exactement
où je faisais à Montréal Trudeau.
Voyons donc.
C'est
ouais,
vrai?
Oui, ouais, non, j'ai
tu m'aurais dit, je sais pas. Là,
genre une seconde, je vous parlais une seconde avant, puis la souris est tombée comme une seconde après, mais une chance que ça pas arrivé pendant que c'était en ondes, parce que j'ai un peu crié, pour être honnête. J'ai vraiment piqué
T'as
un saut.
T'as
crié? J'ai piqué un saut, je savais pas c'est quoi qui m'était tombé dessus, tu sais. Puis quand tu te rends compte que c'est une bestiole.
Ah, t'es tombé dessus.
Ben, comme tombé sur mon sac qui était à côté. Là,
ah non, tu fais le saut.
Ben, je sais.
J'ai juste pogné. J'ai pogné une demi-minute, mettons, là, mais il y a une souris qui est tombée du plafond. J'appelle la souris volante.
Il pleut des souris.
Ouais. À Yule. Donc voilà.
Bon, ben, on devrait voir ça sortir dans les médias dans les prochains jours, là, des souris à
l'aéro. Vous l'aurez entendu
ouais,
ici.
Oui, exact.
La primeur aura été à Boulevard 102.1. Je vous rappelle tout de suite, parce qu'on va faire quelques sujets avec Sam, mais ce que vous aimez, surtout, j'ai l'impression, quand Sam est avec nous, c'est lui poser vos questions. 418-971-1021 par texto. 418-971-1021 par texto. Vos questions pour Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Mais on commence, Sam, en parlant d'autonomie des Kia EV3 et EV4.
Oui, voiture électrique, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais je vous promets que je parle de V8 5 litres après. Fait qu'on va balancer tout ça. Pour les Kia EV3, EV4, c'est deux véhicules électriques qui viennent d'arriver chez le constructeur. Le V4 est déjà en vente actuellement. Et je faisais des recherches pour l'émission RPM. Je suis en train de préparer de la recherche pour un autre véhicule chez Kia, complètement un autre. Et en allant sur le site de Ressources naturelles Canada, j'ai découvert qu'on avait les données d'autonomie pour le V3, qui lui n'est pas encore lancé officiellement au Canada. On l'attend. C'est un petit VUS sous-compact électrique qui va remplacer le Niro, le genre de véhicule que les gens aiment beaucoup. C'est très populaire actuellement, cette catégorie de produits-là. Donc, on l'attendait avec impatience. Puis là, ben, on connaît les autonomies officielles, donc ceux qui vont être rendus publics bientôt par le constructeur. On parle que la version d'entrée de gamme du EV3 va être autour de 356 km. Moi, je m'attends à ce que ça soit un véhicule électrique sous la barre des 40 000 $. Donc, pour un genre de 400 km électrique, je trouve ça quand même assez convenable quand même. Mais lorsqu'on va chercher la version Win tout de suite après, qui, elle, risque d'être plus autour de 40 000 $, donc encore une fois, abordable dans le segment, on va être à 517 km projetés par le constructeur. Donc là, on commence à avoir des chiffres drôlement intéressants parce qu'à ce prix-là, comme je vous dis, là, c'est la projection des prix, je ne les ai pas encore officiellement, mais si on se fie à la stratégie de commercialisation de Kia, qui a la EV3, la EV4 et la EV5 dans son portfolio, la EV3 devrait être dans les plus abordables. Mmh. C'est la première du lot. Là. Donc, devrait se vendre autour de 40 000.
Rappelle-nous, Sam, comment ça fonctionne pour les projections d'autonomie? Est-ce que c'est dans les meilleures circonstances ou on prend comme les moins bonnes circonstances puis les meilleures puis on met quoi dans le milieu?
C'est une très bonne question. À vrai dire, il y a plusieurs types de mesures. Nous, en Amérique du Nord, on se fie à la mesure EPA parce que c'est une mesure mesure qui va aussi considérer les climats nordiques. Donc, dans les tests qu'on va faire, on va faire circuler les véhicules sous la barre des 0 degrés là, pour voir un peu comment ça réagit aussi en hiver. Non, on ne se rend pas à moins 40, mais vous n'allez pas non plus traverser Montréal-Québec tous les jours à moins 40.
Non, donc, c'est ça.
À un moment donné, c'est de faire une moyenne de ça, mais quand même, le test EPA est quand même un test un petit peu plus poussé qui représente mieux nos données. Souvent, quand on regarde le cycle WLTP, qui lui est plus le cycle mondial, les chiffres sont souvent à la hausse. C'est probablement que le V3 fait plus 650 km selon cette norme-là, mais réalistement, ici en Amérique du Nord, avec nos mesures de température, nos dénivelés, les routes qui sont différentes aussi, on a beaucoup plus d'autoroutes aussi, ce qui consomme plus d'énergie pour les véhicules électriques. Ben nous, on se fie vraiment plus à cette norme-là. Donc moi, à 517 km, j'y crois. La beauté, c'est que vous allez probablement faire plus si vous roulez plus en ville. Vous allez peut-être faire un petit peu moins si vous roulez plus fréquemment sur autoroute, mais vous devriez être autour d'un 500 km. Là, je vous parlais d'un véhicule que moi, je projette aux alentours de 40 000 $ dans la catégorie des VUS sous-compact. Là, c'est pas très long d'arriver à 35, 37, 38 000 $ selon l'équipement qu'on va avoir. Donc, si on est rendu nez à nez, maintenant, dans l'électrique, dans cette catégorie-là, ça commence à être drôlement intéressant.
Ben moi, ça me parle, parce que j'ai pas encore fait le switch. L'autonomie et le prix sont importants.
Ben, c'est la base.
Ça pourrait... Moi, ça ferait la différence pour moi.
Ben, je pense que oui. Puis j'ai l'impression que le constructeur va connaître une année 2027 très mouvementée avec ce genre de véhicule-là. À voir et à suivre. C'est un produit qui roule en Europe déjà. Je l'ai vu de mes propres yeux quand je suis allé dans différents lancements. C'est un véhicule qui existe, qui jusqu'à présent semble montrer une bonne cote. Ça a l'air de bien aller. Mais si Kia réussit à amener ce EV3-là à un bon prix avec ce genre d'autonomie-là, je vous confirme qu'on va avoir à tous les coins de rue. Là.
Les questions qui ont commencé à entrer au 418-971-1021 par texto. Continuez de les envoyer. On va y venir dans quelques minutes. Sam, tu voulais aussi nous parler du Ford Custom Garage.
Oui, ben c'est ce que je t'allais faire la semaine dernière. Donc, je vous ai parlé de pourquoi j'allais au Michigan.
Maintenant, c'était pas chasser la souris. Là.
Non, exactement. J'étais pas Garfield. Donc, mon but, c'était vraiment d'aller là pour faire quelque chose. Et c'était d'aller voir Ford Custom Garage, qui est effectivement une nouvelle division chez Ford. Je dis nouvelle, mais je voulais vous en parler parce que je trouve ça intéressant de voir la stratégie que le constructeur a pris pour la personnalisation de ses véhicules. On va faire une marque parapluie qu'on appelle dans l'univers marketing. Donc, on a une marque qui s'appelle Ford Custom Garage maintenant qui va chapeauter 3 sous-marques. On va avoir la marque Ford Accessory qui va pour être pour les tapis d'hiver, ces choses-là assez de base. On va l'avoir Ford Racing aussi qui était auparavant Ford Performance mais maintenant qui s'appelle Ford Racing. Donc, on peut vendre des pièces de performance pour augmenter la puissance d'un moteur V8 5 litres par exemple. On peut avoir un suralimentateur de moteur qui va aller se greffer sur un véhicule qui existe déjà via Ford Racing. Et on a Ford Custom Garage qui va aller pousser encore plus loin en offrant des ensembles tout équipés d'un véhicule. Par exemple, on peut avoir un Ford Maverick SV300T qui vient avec un kit modifié de turbo qu'on a emprunté à la Ford Mustang EcoBoost, un système d'échappement exclusif, on a changé la suspension et compagnie.
Le prix va venir avec, on s'entend.
Oui, les prix ne devraient pas être si pires que ça, okay. Par contre, parce que moi, ce que j'aime de la stratégie du constructeur, c'est qu'on peut acheter, par exemple, un Ford Maverick XLT, donc un modèle milieu de gamme, et lui greffer cet ensemble-là. On n'est pas obligé d'aller chercher la version tout équipée pour avoir ensuite accès à l'ensemble de performances. C'est comme une avenue qu'on a déjà vu Ford faire dans le passé. Ça s'est appelé différents noms au courant de l'histoire du constructeur. Mais là, on a comme décidé de faire du gros ménage là-dedans puis de sortir Ford Custom Garage. Moi, j'avais beaucoup de doutes à savoir si ça allait venir au Canada. Je pensais que c'était vraiment juste pour les États-Unis. Mais on m'a confirmé via Ford Canada que les concessionnaires dans la région de Québec et partout à travers le Canada vont être capables de faire les ensembles exclusifs pour les véhicules. Donc, c'est intéressant de voir les stratégies qui peuvent arriver. Je vois aussi l'âge moyen des véhicules qui vieillissent sur le marché. Hein. Les gens conservent plus longtemps leurs véhicules. Donc, des fois, d'aller se remettre un petit peu de sous sur un produit pour le rendre un peu plus performant puis continuer à avoir du plaisir avec, ça peut peut-être nous aider à le garder un peu plus longtemps aussi. Là.
Et finalement, dernier sujet avant de passer aux questions des auditeurs, dans le rayon des moins bonnes nouvelles, là, Porsche qui supprime 9000 emplois.
Oui, ça va s'en venir, puis ça, on s'y attendait. Porsche qui est dans la grande famille Volkswagen, hein, qui est une division qui est très touchée actuellement par les véhicules électriques chinois, la guerre tarifaire, Volkswagen en arrache beaucoup. Donc, Porsche suit le bal également. Donc, d'ici 2035, on va effectivement supprimer 9000 emplois. Ça n'a pas l'air si gros que ça quand on parle d'une entreprise automobile, mais pour Porsche, qui est un manufacturier de véhicules exotiques, c'est quand même beaucoup de monde là, qui va partir de l'entreprise. Deux raisons évoquées, c'est que le marché chinois actuellement est ralenti beaucoup. Il faut savoir qu'il y a plusieurs constructeurs, dont Volkswagen, Porsche, GM également. Il y a des marques comme Ford, il y a des marques un peu partout dans le monde qui ont eu l'opportunité de vendre énormément de véhicules en Chine. Les Chinois ont commencé à acheter massivement leurs véhicules dans les 10 dernières années. On a fait des profits monstres. jusqu'à l'effondrement de tout ça il y a un an. On voit la différence de culture ici avec le marché chinois, c'est que ça va suivre la tendance là-bas. Et là, la tendance est actuellement à acheter des marques locales. Donc, les gens achètent des véhicules qui sont faits par des entreprises chinoises comme BYD. On en parle beaucoup dans les médias à gauche et à droite. Donc, ce qu'on a vu, c'est les chiffres s'effondrer de Porsche. On vend beaucoup moins de véhicules. On a également des problèmes avec la transition énergétique, surtout avec les tarifs douaniers de l'autre côté. Ça rend ça vraiment compliqué pour le constructeur. Donc, on va réajuster le tout d'ici 2035. On devrait continuer à avoir des nouvelles de même dans l'industrie automobile. Moi, je pense que c'est une industrie qui est fortement impactée actuellement par tout ce qui se passe en géopolitique et que ça va clairement continuer des mauvaises nouvelles comme ça à gauche et à droite.
Maintenant, les questions des auditeurs au 418-971-1021. Je commence avec Pascal. On regarde pour une deuxième voiture pour la ville. Le nouveau Seltos vaut-il la peine? Je trouve que le changement de look est attirant.
Je comprends. Puis, voyez-vous, je viens juste de l'essayer. La semaine dernière, c'était le lancement officiel du véhicule. Mon article est disponible d'ailleurs en ligne si vous voulez voir toute ma critique sur ce produit-là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est vraiment un choix qui est logique. Dans le sens que on a revu le Seltos et je ne sais pas qu'est-ce que Kia avait mangé ce matin-là, mais ils sont arrivés en se disant nous autres, on va faire un VUS sous-compact qui va aller dans les talles d'un VUS compact, donc un peu plus gros. Beaucoup d'espace à l'arrière, beaucoup d'espace dans le coffre également. Mais on a conservé les deux mêmes mécaniques qu'on connaissait déjà très bien du Seltos. 4 cylindres 2 litres de base avec une transmission IVT qui est une transmission en variation continue. Et on a aussi le moteur 1.6 litres turbo qui est plus fiable drôlement que le 4 cylindres 2 litres, mais qui est un petit peu plus onéreux, surtout dans les versions X-Line. Moi, ce que je vous invite, c'est de considérer le Seltos. C'est pas de mauvaise idée, mais j'irai pas chercher une version tout équipée de ce produit-là parce qu'on va se ramasser autour de 44 000 $ pour ça. Puis honnêtement, je viens de parler du EV3 qui s'en vient. Si vous voulez un deuxième véhicule, un petit produit électrique comme ça va devenir drôlement avantageux aussi. Donc, si vous voulez considérer le Seltos, moi j'y resterai dans les versions LX, EX, plus de milieu de gamme. Vous allez vous en sortir autour de 35 000 $ pour un produit qui effectivement s'est montré assez polyvalent lorsque j'ai pu l'essayer. RPM, pour le moment, on le met sur évaluation. Il faut le voir, puis mais en même temps, je vous dis, les mécaniques n'ont pas changé. Il n'y a pas énormément de risques avec ce produit-là.
On s'en va dans les voitures un peu plus haut de gamme. Audi Q5 ou Lexus RX 350.
J'irai avec le Lexus RX 350, même que si vous êtes capable d'aller chercher un hybride, allez-y pour. La raison est simple, c'est que le Q5 vient d'arriver, puis honnêtement, Audi ont énormément de difficultés avec ce produit-là actuellement en termes de fiabilité, des problèmes technologiques à gauche puis à droite. Le Q5 était, jusqu'en 2024, le VUS sous-compact qu'on aimait le plus chez RPM, parce que c'est lui qui avait une bonne cote de fiabilité, un rapport qualité-prix qui était solide. Mais la nouvelle génération n'a vraiment pas de le vent dans les voiles actuellement.
Ils en ont perdu.
Ouais, c'est dur.
Et sous question, achat ou location?
J'achèterais le Lexus sans problème. J'achèterais ça, gardez-le à long terme. C'est un produit qui a une excellente valeur de revente. Vous allez payer un peu plus cher, là, mais je pense que ça vaut la peine si vous considérez le garder longtemps.
Question de sauver l'entretien de deux autos et je fais moins de 2000 km l'hiver. J'ai l'intention de conduire mon Mustang 2.3T convertible cet hiver. As-tu des chouchous en matière de pneus d'hiver pour les chars à propulsion?
Ah, c'est une bonne question, c'est le fun. Puis oui, pourquoi pas? Si vous êtes capable de tenir le volant comme il faut, ça va être le fun. Vous allez avoir du plaisir avec ça. Moi, il y a une marque que j'aime particulièrement pour les pneus d'hiver qui sont bruyants lorsque c'est sec, mais qui mordent énormément l'hiver, c'est Gislaved. Peut-être qu'on dit Gislaved, Gislaved. En tout cas, c'est une marque norvégienne. Moi, j'adore.
Ton norvégien.
Il est pourri, mais j'adore ces pneus-là. J'ai trouvé que ça mordait énormément, puis j'ai déjà rouler ça sur un véhicule qui était propulsion, mais pas de base. Là. Il était juste brisé, fait qu'il tirait plus en avant, il poussait juste en arrière. Mais ça fait une belle différence d'avoir un bon pneu comme ça. Je pense que ça vaut la peine aussi de payer pour des bons pneus. Si vous voulez avoir un bel hiver, allez-y dans les grosses marques, le Nokian et compagnie, je pense que ça vaut la peine.
Jonathan qui demande GR Corolla 2026, bon véhicule?
Oui, ben oui, j'ai beaucoup aimé le GR Corolla. Allez-y pour la manuelle, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a une transmission automatique qui existe. Elle n'est pas méchante, mais elle enlève un peu de caractère à ce produit-là. C'est un véhicule de puriste, puis ça vient avec plusieurs compromis. Si vous comparez ça, d'ailleurs, je vous invite, RPM, on a fait la GR Corolla contre la Golf R l'année passée. Donc, la Golf R qui est littéralement l'ennemi numéro un de la GR Corolla, parce que c'est un produit qui est plus polyvalent, qui est plus performant en accélération, qui est plus luxueux aussi, puis qui est moins cher que la GR Corolla. Donc, vous me voyez venir, choisir la GR Corolla, c'est un peu choisir d'être un fan de la marque, puis ça demeure que ça vient avec certains compromis en termes de confort au quotidien, d'espace également, de finition à l'intérieur qui sont pas au sommet, mais si vous comptez aller sur les pistes une fois de temps en temps, c'est une vraie petite bombe cette affaire-là, ça se conduit vraiment bien, la valeur de revente va être excellente aussi, puis clairement un véhicule de puriste.
Ici, on a quelqu'un qui dit, je suis toujours du genre à prendre la dernière année, fait que là, il veut dire la 2026, fait que l'année d'avant la 2027 pour la Elantra. Là, il se demande, est-ce qu'il serait mieux de prendre la 2026 parce que ce serait peut-être plus fiable ou d'y aller avec le nouveau 2027?
Bien, le nouveau 2027, on n'a pas encore énormément d'informations sur ce produit-là. On a commencé à voir des photos espionnes qui nous viennent de la Corée directement. On voit des choses ici et là. On entend parler de certaines mécaniques. Rien n'a été officiellement dévoilé pour le Canada. Donc, si vous êtes en train de magasiner puis que le changement arrive à point, allez-y pour une 2026. Je pense pas du tout que c'est une mauvaise idée. C'est un produit qu'on connaît bien, qui effectivement, vous avez fait une bonne analyse aussi. À un moment donné, d'acheter la fin d'un cycle générationnel, c'est aussi acheter le moment où l'usine est à son meilleur. On a corrigé tous les petits bobos au fil du temps. Donc, je pense que c'est une bonne idée. C'est sûr, par contre, que les Coréens ont tendance à faire un spectacle assez flamboyant lorsqu'ils lancent une nouvelle génération. Donc, je veux pas que vous m'en veniez en me disant « J'aurais voulu vivre l'expérience de la nouvelle patente. » Ça se peut que ça soit impressionnant. On a vu des nouveaux écrans d'infodivertissement. Ça a l'air d'être un produit qui va être assez innovant aussi. Mais ça va venir avec un risque en termes de fiabilité, assurément. Donc, si vous êtes pressé, moi, je vous dirais « Allez chercher une 2026 » parce que, anyway, je vous conseillerais pas la 2027 avant un an ou deux encore minimum.
Tu sais, des fois que je pose des questions qu'on reçoit puis je les comprends pas moi-même, puis je suis toujours impressionnée parce qu'il y a toujours une réponse à toutes les questions. En voilà une. Concernant les véhicules électriques, je pense m'acheter le Silverado. J'ai vu l'histoire de la famille prise aux States.
OK, oui.
Toi, tu sais de quoi.
Très bien,
évidemment.
Oui.
T'en penses quoi?
L'histoire, en passant, juste pour mettre les auditeurs en contexte, c'est une famille, je sais pas de quelle région au Québec, mais une famille québécoise qui sont partis en road trip avec leur Silverado EV, avec à l'arrière de dessus une remorque, là, un campeur. Puis, sont tombés en panne à peu près deux jours après avoir commencé leur voyage. Ils ont utilisé une borne de recharge qui semblait pas être compatible avec le véhicule. Ça a brisé une composante interne. Ils n'ont jamais été capables de se faire réparer. Ils ont été pognés après ça dans les concessionnaires à attendre la pièce et compagnie. Un peu
un
le
cauchemar.
Bordel, un cauchemar. Puis là, ça a fait le tour des médias. Là, on a vu comment la GM a essayé de traiter la situation. On a vu plein de choses là-dedans. Moi, j'ai envie de vous dire, tu sais, toutes les histoires sont uniques. Après ça, c'était audacieux et courageux de vouloir se lancer dans ce genre de défi-là avec un nouveau véhicule à la base. Déjà là, c'est déjà audacieux. C'est un problème du véhicule électrique, ça, là clairement. Tu sais, là, les problèmes, on les voit arriver, surtout quand on sort du Québec, c'est que les concessionnaires ailleurs n'ont pas l'air être capables d'y réparer non plus. Donc, si votre plan à vous, c'est de partir un peu comme la famille, puis d'aller vous promener un peu partout dans le monde, puis de profiter de ça, ouais, ça vient avec un risque, puis clairement, ça a été compliqué, le réussir à le réparer, ce produit-là. Je pense même pas qu'il est encore réparé au moment où je vous parle. Donc, je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire. Après ça, dans la camionnette électrique, il n'y a plus grand-chose. Ford a enlevé le F-150 Lightning. Il nous reste le Silverado EV. Moi, ce que j'aime jusqu'à maintenant et jusqu'à preuve du contraire, c'est que GM semble vouloir continuer d'en faire des véhicules électriques, semble vouloir continuer d'investir dans ces plateformes-là aussi. Donc, risque d'être un constructeur avec une réponse quand il va avoir des problèmes. Je pense à la Bolt, entre autres, qui est une petite voiture électrique bien populaire, qui va bien, qui a fait sa preuve de fiabilité. T'sais, c'est un constructeur qui sait à peu près ce qu'il fait, là. Je dis à peu près parce que c'est un peu le domaine de l'électrique, là. C'est toujours un peu risqué au départ, mais selon moi, le Silverado EV n'est pas un mauvais choix, surtout dans le contexte que vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez aller dans l'électrique, mais ça vient avec, bien sûr, un risque en termes de fiabilité, c'est indéniable.
Sam Tremblay, Michaud, une petite dernière pour toi. Là, je dois choisir, on va y aller, j'en ai pris une au hasard. Est-ce qu'on peut s'attendre à la disparition de plus petits joueurs dans le marché à cause de l'arrivée de géants chinois, par exemple le Subaru qui pourrait être absorbé par Toyota?
C'est une bonne observation. Subaru, dans le cas de Subaru, entre autres, je pense qu'ici, ça va assez bien, au Canada surtout. Faut savoir que Toyota possède déjà une partie de Subaru. Je pense 33% des parts quand même, quelque chose de genre. Là. Donc, tu sais, à la base, je pense que les deux constructeurs vont toujours collaborer. Je pense pas que Subaru est à risque. Je vois d'autres constructeurs, peut-être comme Mitsubishi, Nissan aussi, de ce temps-ci, qui a de la misère à s'en sortir. Mitsubishi, qui est un petit joueur avec un petit portfolio, qui n'a pas de véhicule électrique encore. On va importer une genre de Leaf déguisé chez Mitsubishi prochainement, qui va s'appeler la Eclipse Sportback, qui va être littéralement une Nissan Leaf copiée, mais avec un logo Mitsubishi à l'avant. Mais tu sais, on voit que c'est des constructeurs actuellement qui sont plus dans la misère que Subaru, par exemple. Je pense aussi à Jeep, tu sais, Stellantis en général, là, Dodge, Jeep, Chrysler, c'est des concessionnaires qui ont fermé. Il y en a un qui a fermé sur Henri Bourassa à Québec, là. C'est rare qu'on voit ça, des concessionnaires d'automobiles fermés. Il y en a qui ont fermé aussi dans le coin de... Je sais, j'en ai vu un à Baie-Saint-Paul qui a fermé également, Duclos, quelque chose, peu importe, là. Mais on voit des concessionnaires fermés de la marque Stellantis existe un peu partout. C'est une marque qui a beaucoup de portfolios, justement, qui a de la misère à sortir la tête de l'eau. Les chiffres de vente ne sont pas là. Donc, moi, je pense que pour des constructeurs qui sont actuellement déjà dans l'eau chaude, l'arrivée des véhicules chinois va être effectivement dangereux. Ceci dit, c'est pas fait non plus, là, l'arrivée des véhicules chinois. Là. Si vous attendez après ça pour changer de véhicule, j'espère que votre véhicule actuel il est encore bon pour une dizaine d'années. Là. Mm. C'est pas fait.
Sam Tremblay-Michaud, à quel endroit on peut te suivre et te rejoindre?
Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile sur Facebook. Je vous réponds tout le temps. Ça prend quelques jours, là, mais je vous réponds, je vous le promets. Je le fais.
Sam, un gros merci.
C'est un plaisir.
Au retour de la pause, chronique communication d'Antonine Iaccarini sur le thème aujourd'hui de l'exagération. J'ai une petite jambe bonus à apporter à ta chronique.
Une jambe?
Ben une jambe, j'apporte une jambe de plus. Là,
je ne connais pas cette expression-là, tu me l'expliqueras tantôt.
Ben une jambe, je veux dire, j'apporte quelque chose de plus, une jambe de plus, là.
Je regarde les autres dans le studio, puis personne ne sait ce que ça veut dire à part une jambe.
T'amènes-tu une jambe, mettons, de quelqu'un?
Ben non, mais dans le sens, t'as ton sujet, moi, j'y donne une jambe de plus.
C'est-tu ta jambe?
C'est la jambe à qui?
Ben c'est la jambe à personne, c'est une jambe de plus, j'apporte du contenu supplémentaire
Donc,
à ta chronique.
T'as pas de jambe, là.
Non, il n'y a pas de jambes. C'est... OK. Regarde, on revient.
Le retour de Boulevard jusqu'à...